dans le film L'Histoire de Souleymane. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, il sera 10h à Paris, 9h temps universel.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-entendue, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture de deux nouvelles parmi les 19 écrites par Sylvain Tesson et regroupées sous le titre « S'abandonner à vivre ». C'est là un titre qui questionne et que Sylvain Tesson explique par une référence au mot « pophygisme », terme d'origine russe, sans traduction française. Le pophygisme, dit-il, est une résignation joyeuse et désespérée qui advient face à l'absurdité du monde. Découvrons donc.
La gouttière. Elle avait placé sa main gauche sous la cigarette pour que la cendre ne tombe pas dans le lit. « Va en chercher un, s'il te plaît, chérie. »« Où ? » dis-je. « Dans la cuisine. »« J'y vais, » dis-je. « Tu reviendras ? Jure-le. » J'apportais le cendrier et me recouchais dans les draps moites, luisants. La peau de Marianne exhalait l'odeur de l'humus des forêts balkaniques après la pluie. La fumée de nos cigarettes montait en deux colonnes qui se mêlaient. L'amour, c'est se rencontrer, se dissoudre, disparaître. Tu arrêtes, chérie, avec tes aphorismes de paquets de lessive. Jamais. Le soleil du mois de juin avait frappé toute la journée sur le zinc. La chaleur accumulée pulsait dans les appartements. Pareil à ces douleurs de prémolaires irradiées en ondes lentes. Il était 10h du soir, une atmosphère mauve enveloppait la ville. La nuit était venue sans aucune fraîcheur. Les gens haletaient depuis l'aube. Ils se tenaient à présent aux terrasses des cafés, sur les balcons, les quais, à gare, abrutis de canicule. « Il y a des vieux qui ont dû mourir aujourd'hui, » dit-elle. « Moins de voix à droite au municipal, » dis-je. J'écrasais mon clope, retournais Marianne sur le flanc, me collais à son dos, l'a pris dans mes bras, le nez dans ses cheveux. Elle avait des seins qui faisaient baver les nourrissons et les vieux messieurs. On aurait dit la Vénus de Willendorf, avec un ventre d'apnéiste, une peau de propagande pour l'industrie laitière et une tête de madone pré-raphaélite. Ses yeux bleu marine faisaient des avennes dans sa face carcique. Quand je lui disais ce genre de choses, elle répondait que j'aurais dû lever une géologue. Elle s'aimait en morse. Nous étions deux pointillés dans la nuit. Nous ne réussissions à voler que de rares soirées à nos vies impossibles. Alors, on se saoulait consciencieusement, on vivait à poil, on mangeait du raisin noir, grain à grain, et on s'offrait des livres qu'on se volait ensuite pour découvrir ce que l'autre avait noté. Seule ombre au tableau, je la partageais. Elle s'était mariée 3 ans auparavant avec un médecin originaire de Dunkerque. Et je considérais cette union comme une insulte à la vie dangereuse chantée par Blaise Psandar, dont je vénérais l'énergie désordonnée et rabâchais les oreilles de la petite. Le mari, le docteur comme je l'appelais, était un bon garçon du genre appliqué. 8 ans d'études pour apprendre combien l'homme est vulnérable. Il rassurait le mourant, attendrissait l'arthritique et échauffait l'adolescente qui prenait les palpations pour une invite. Il était généraliste. Le terme s'appliquait aussi à ses idées. Yeux bleus, mèches blondes, chemise à rayures. Il soulageait les gens sans se guérir lui-même d'une maladie grave, le conformisme. Quand je pense qu'il fait le même métier que Céline. Tu es jaloux, disait-elle. De Céline? Non, de Cédric. La mort à crédit, c'est le mariage. On s'était rencontrés l'hiver d'avant, à la salle d'escalade d'ici les Moulineaux, où j'enseignais à des cadres supérieurs l'art de se prendre pour un singe. Marianne était venue pour une leçon d'initiation. Elle travaillait aux ressources humaines d'une banque à la Défense et, comme des milliers de cols blancs parisiens, pensait que l'escalade sur les murs artificiels, le soir, rachèterait les journées passées sur des fauteuils ergonomiques à envoyer des mails à des supérieurs en surpoids derrière les vitres d'une tour. Je lui avais expliqué le fonctionnement du matériel et lui avait fait empoigner quelques prises sur le mur des débutants. Marianne avait des dispositions. J'avais aimé l'aider à enfiler son baudrier. Elle était revenue seule 3 semaines de suite. S'était inscrite à mon cours et un soir de décembre, où j'étais chargée de la fermeture du club, nous avions fait l'amour dans le sauna. Après une longue séance dans les surplombs en 5e degré, où je l'avais tenue sec au bout de la corde. Ce trimestre-là, le sort nous avait souri. Le docteur suivait une formation pour décrocher un diplôme de médecine tropicale. Toutes les 2 semaines, il s'absentait 3 jours pour des séminaires dans un nouveau hôtel périphérique où l'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres et où ses professeurs l'initiaient au mystère de la bilharziose et des cycles de reproduction de la mouche filaire. Il partait le jeudi, j'arrivais sur ses pas, il rentrait le dimanche juste après mon départ. Rien de sordide dans cette valse, j'étais organisée comme un amant suisse et Marianne avait le cœur compartimenté. Les cloisons de la conscience parfaitement étanches. L'essentiel dans une double vie, c'est qu'on ne soit jamais 3 à la vivre. « Réponds, chérie, ou coupe cette saloperie. »« Non, il est trop loin, dit-elle. Ça fait 2 fois que ça sonne, dis-je. » Je n'ai pas de téléphone portable, car je trouve d'une insondable goujaterie d'appeler quelqu'un sans lui en demander préalablement l'autorisation par voie de courrier. Je refuse de répondre au drôlin du premier venu. Les gens sont si empressés de briser nos silences. J'aime Degas, lançant « C'est donc cela le téléphone? On vous sonne et vous accourez comme un domestique. » Les sonneries sectionnent le flux du temps, massacrent la pâte de la durée, hachent les journées, comme le couteau du cuisinier japonais le concombre. La 3e fois, Marianne se leva, décrocha et revint dans la chambre. Ils ont annulé les cours, Cédric est en bas. Il veut savoir s'il doit prendre du pain. Il monte. On est foutu. Mais non, dis-je.
L'escalade est un sport de combat. Grimper les parois affûte le corps, développe une musculation spécifique, accroît la capacité de concentration, enseigne une gestuelle, dote d'un sens de l'équilibre et d'une résistance physiologique qui appartiennent en propre à cette discipline. Mais le plus important, c'est l'instinct que l'activité aiguise au suprême. Le grimpeur, mis de son plein chef dans des situations impossibles, doit opposer au danger son inspiration, son imagination, ses réflexes. Grimper, c'est se mouvoir dignement dans l'incertain, comme l'écrivait Chardonne. Survivre sur des pentes qui s'éboulent, guerroyer contre l'inconnu et opposer sans cesse des décisions vitales au jaillissement d'embûches avec, en cas de mauvais choix, la mort. L'imprévu ne m'avait jamais tétanisé, mais en cet instant précis, devant Marianne décomposée, disposant de 30 secondes de répit avant le drame, la situation commandait un sérieux sens de l'adaptation, en même temps qu'un coup de collier. Je ne sais pas comment je me trouvais sur le rebord de la fenêtre, tout habillée, en moins de 30 secondes. Marianne retapait le lit, j'entendis claquer la porte d'entrée, des exclamations enjouées. « Quelle salope, tout de même » pensais-je. Paris est un terrain d'escalade insoupçonné. Pour peu qu'on considère la ville avec un œil d'alpiniste, la géographie urbaine devient topographique. Les rues se métamorphosent en défilés flanqués de parois et les tours de verre en face plus lisses que les falaises de Carrare. L'appartement de Marianne occupait les combles du 7e étage d'un immeuble du quartier latin face à l'église Saint-Séverin. Une gouttière en fonte courait le long de la façade. Les rivets semblaient solides. Je coinçai les mains derrière le tube et, veillant à ne pas faire levier, plaçai un pied en adhérence et l'autre dans l'interstice ouvert entre la gouttière et le mur. Le plâtre se craquelait et j'en écaillais de la semelle de larges dartres qui tombèrent dans le vide. Mon pied ripa contre le revêtement pourri. Je crispai les mains, la gouttière bougea et les rivets à hauteur de mon visage se délogèrent du mur. Je ramenai mon corps le plus près possible du tube pour faire travailler la structure verticalement et la soulageai de mon poids en arquant mes orteils sur la moulure de l'encadrement des fenêtres du sixième. À Paris, dans les rues étroites, les lampadaires sont rivetés aux immeubles au premier ou au deuxième étage et éblouissent les passants. Impossible de distinguer les toits depuis le sol. Personne ne pouvait déceler ma présence. J'étais seule, pendue à mon tuyau, à 20 mètres du sol, condamnée à descendre sans le moindre faux pas. J'avais grande habitude de ces explorations de façade. Souvent, j'arrivais par les fenêtres dans les dîners. J'aimais toquer aux carreaux, surprendre les invités, effrayer les maîtresses de maison. Quelques visages blêmissaient et après un moment de flottement, on finissait par m'ouvrir. J'avais failli tuer de peur un vieux libraire américain du quartier latin en surgissant devant sa fenêtre du troisième étage le jour de son anniversaire. Une nuit d'été, j'avais oublié l'étage où m'attendait une Anglaise dans un immeuble des Batignolles. Et j'avais grimpé en humant les effluves échappées des fenêtres jusqu'au moment où, au quatrième étage, j'avais reconnu son parfum. Une autre fois, au petit matin, dans une cour d'immeuble, un homme m'avait forcé à redescendre 5 étages en me mettant en joue avec ce qui aurait aussi bien pu être un fusil qu'un parapluie. Dans le doute, j'avais obtempéré. Une nuit, la gouttière s'était décrochée. J'avais lentement basculé en arrière dans le vide et réussi à me rattraper de la main droite au garde-fou d'une fenêtre tout en retenant de la gauche la colonne arrachée. Un autre jour, j'avais escaladé, pieds nus, une façade, m'étais entaillé l'orteil et avais laissé sur le mur une traînée de sang qui avait dû alimenter les conjectures des propriétaires le lendemain. Et un matin, je m'étais réveillée au balcon du 5e étage d'un immeuble de la rue Bellechasse, sans aucun souvenir du nombre exact de vodka avalés en bas la veille. Je restais un moment immobile au 4e étage, tâchant de saisir ce qui se passait chez Marianne. Pas un éclat de voix, tout était calme. Dans le ciel de Paris, je continuais à descendre. La moulure du 2e étage que j'avais pincée à main droite pour contourner le bras du lampadaire logé dans le mur se brisa net. Je tombai sans un cri, le corps raidi, avec l'impression de me pétrifier dans l'air tandis que l'immeuble défilait devant moi. Les gens qui chutent dans le vide parlent de suspension du temps. Sans doute parce que la conscience sait le choc inéluctable et s'attache à habiter le plus intensément possible les secondes qui le précèdent. Je crus que ma colonne vertébrale explosait et surtout que le craquement allait réveiller tout le quartier. Je sus que c'était une fracture avant de perdre connaissance. J'étais tombée de tout mon poids sur les talons et avais violemment donné du dos et de la tête contre le sol. Vous allez bien ?
Non.
2 vieilles dames étaient penchées sur moi. Vous pouvez vous lever ?
Non.
Le viet du rez-de-chaussée était sorti de son échoppe. Il faut appeler quelqu'un, dit l'une des vieilles dames. Elle avait de longs cheveux raides et son visage bleuté aurait pu constituer une douce vision à emporter dans la mort. Les pompiers ? Dit-elle au viet. Ils viendront. « Trop de temps, dit-il. Il y a médecin, 7e étage. J'appelle lui. »« Surtout pas, murmurai-je. » Après, Je téléphone pompier. » Et il disparut dans l'épicerie. La vieille dame s'était agenouillée avec difficulté et me caressait le front d'une main sèche et tiède. Elle avait dû perdre des enfants. Je saignais de l'oreille. « Dites-lui de ne pas déranger le médecin, » dis-je. « Vous êtes gentil, » dit-elle, « calmez-vous. » Une minute plus tard, il était là. Sa tête de communiant disposée au bonheur. Ses yeux noyés d'humanisme. Ses gestes dont le professionnalisme ne vivifiait même pas la mollesse. Et ses joues trop garnies qui lui donnaient l'air d'un hamster élevé chez les clergymènes. « Que vous est-il arrivé ? Il est tombé devant nos yeux, » dit la vieille. « Du lampadaire, sur le dos. Ça a fait un bruit horrible, un claquement humide. » En tournant la tête, j'aperçus Marianne dans la coignure de la porte d'entrée de l'immeuble. Elle était descendue sur les talons de son mari. Elle me regardait sans oser s'avancer sur le trottoir. L'expression de pitié de son visage lui allait mal. Elle était plus jolie quand elle était cruelle. « Vous pouvez bouger les orteils, les doigts ?» dit le médecin. J'aurais voulu lui écraser mon poing dans la gueule. Mes mains me faisaient souffrir atrocement. La douleur de mon dos m'inquiétait et j'avais l'impression que mes talons brûlaient. Les doigts, oui. Les orteils un peu, mais j'ai l'impression d'avoir perdu les talons, dis-je. Mais vous faisiez quoi là-haut, dit-il. Je suis ornithologue. Il y a un nid sans sonner là-haut. Il ne répondit rien, car je hurlais quand il tenta de m'enlever la chaussure. J'avais la tête tournée vers l'immeuble. Je vis Marianne s'enfouir le visage dans les mains. Je ne sais pas si elle pleurait sur mon sort ou se masquait l'obscène incongruité de la scène. Si vous avez si mal, c'est que vous vous êtes fracturé le calcanéum. Je ne sens plus mon pied, dis-je. C'est cela. Une fracture par compression et tassement. Ce sera très long. L'air satisfait, habitué à éblouir les grands maîtres et à agrémenter chaque diagnostic d'une considération de salon, sans se rendre compte du ridicule qu'il y a à disserter au-dessus d'un blessé dans un caniveau, il dit « En médecine, on appelle cela la fracture des amoureux, parce que les amants sautent du balcon pour échapper au mari ». Les médecins, tout de même, quelle imagination, dit la dame. Les pompiers arrivaient et la rue devint bleue. Le Viet fermait sa devanture. La vieille se releva en craquant. Marianne avait disparu dans le hall d'entrée. Le docteur prit soin que les pompiers m'installent des attelles de contention et me sourit quand la porte du camion se referma.
Vertige de l'amour, mes circuits sont niqués, puis y a un truc qui fait masse, courant peut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe, je veux le feuilleton.
La lettre. La boîte aux lettres de la rue Paul-Vaillant-Couturier faisait face au bistrot nordique Hamsun, où les élèves du lycée Lavoisier se ruaient en bande, sitôt sonnée la fin des cours. Les yeux violets de Marique, la vendeuse fraîchement débarquée de Tromsø, attiraient davantage ces petits salauds boutonneux que les bocaux de harangues Aligné sur des présentoirs de pain avec ce manque d'imagination, légèrement désespérant, propre à la Norvège luthérienne. La levée postale avait lieu le matin à 10h et celle du soir à 18h. Les horaires avaient été modifiés l'année précédente sous la pression du syndicat dont le porte-parole avait décrété dans un communiqué que personne n'éprouvait plus le besoin de déposer une lettre après 6h du soir ni d'envoyer les nouvelles avant 10h du matin. La levée de 15h, instituée en 1945, avait été supprimée. Les gens s'écrivaient moins, ils préféraient composer des numéros. Maurice, arrivé de Saint-Denis de la Réunion en 1975, était le facteur du quartier depuis 1978. Il allait par les rues et les boulevards, appuyé à l'affreuse bicyclette carénée dont les technocrates du ministère avaient affligé les postiers. En sa jeunesse, Maurice avait exercé le métier sur l'île, dans le cirque de Mafate. Il arrachait alors 15 000 mètres de dénivellation mensuelle aux pentes volcaniques, mais une sale tendinite au talon et des ruptures d'aponévrose l'avaient contraint à demander une affectation en des parages moins taraudés. Et l'administration lui avait proposé Stain ou Romorantin. Il avait étudié la carte. Et comme des deux villes, Romorantin était la plus proche de l'équateur, il avait choisi Romorantin. Le Réunionnais connaissait le moindre pavé de sa tournée, saluait les commerçants, jalons de son circuit de 7 kilomètres. Il appartenait à l'espèce des gens qui goûtent encore la saveur des spectacles 100 fois admirés, des sensations 100 fois éprouvées. Et la certitude de les connaître encore l'enchantait davantage que les promesses de l'imprévu. Né avec l'amour de l'aventure, il aurait choisi un autre métier. Seuls les pionniers de l'aéropostale avaient réussi à surmonter la contradiction entre la furie des vols transatlantiques et l'aimable monotonie de la distribution du courrier. Immuablement, il poussait les mêmes portes cochères et jetait dans les boîtes, dont il connaissait chaque propriétaire, des enveloppes qui annonçaient des retrouvailles, précipitaient des catastrophes, rétablissaient des vérités, exigeait des paiements. La plupart du temps, les gens ne recevaient que des factures. Mais parfois, Maurice repérait une enveloppe manuscrite à l'écriture tremblée. Il avait appris à distinguer, dans l'hésitation, l'application ou la désinvolture de la graphie, un message d'amour, d'une lettre de politesse ou d'un mot de rupture. Il savait que bien des cœurs s'étaient serrés à la simple vue d'une écriture attendue. Les facteurs sont les messagers du destin. Ils ne distribuent pas le courrier, ils battent les cartes de l'existence. Il arriva à 9h58 à la boîte de la rue Paul-Vaillant-Couturier pour la levée du matin. Marieke lui rendit son salut en découvrant une de ses dentures qui confirme que l'industrie pharmaceutique nordique produit des pâtes dentifrices d'une qualité supérieure et la race scandinave des gencives irréprochables. Héritage du temps où les peuplades lapones déchiquetaient les tendons d'ours accroupis sous les tentes d'écorce. « Pardon, monsieur, » dit Maurice. Un jeune garçon d'une vingtaine d'années, aux longs cheveux bruns, très pâle, attendait planté devant la boîte. Des rangers cirés, un imperméable de cuir noir et une croix d'argent portée sur un t-shirt où s'étalait en lettres gothiques « Vivre à Vili », désignait un membre de la tribu des gothiques qui connaissait un regain depuis 2 ou 3 ans dans le centre de Romorantin. Maurice crut avoir affaire à l'un de ces boutonneux de Lavoisier capable de se planter devant la devanture de Marieke pendant 2 heures, espérant que la petite viking décroche un regard par-dessus des saucisses. Le garçon ne bougea pas. « Je dois ouvrir la boîte, jeune homme. Je dois récupérer une lettre, monsieur. » Maurice connaissait la musique. Des candidats au repêchage de lettres, il y en avait 1 ou 2 par trimestre. « Jeune homme, c'est impossible, » dit Maurice. « Elle est à moi. »« Non, mon garçon, quand la lettre tombe dans la boîte, elle nous incombe. »« C'est une question de vie ou de mort. »« Rien que ça. Vous en êtes sûr, mon petit ?»« Si je vous décris l'enveloppe, si je vous indique l'adresse, et si je vous montre ça pour que vous compariez l'écriture. » Le garçon tendit une enveloppe à Maurice. L'adresse d'une fille au nom arabe dans un quartier du Nord était inscrite à la plume. La poste est un service public qui ne tient pas compte des remords de ses utilisateurs. Quand vous jetez la lettre, vous jetez les dés. Les fentes d'une boîte sont à sens unique et les lettres, comme les morts, voyagent vers leur sort. Vous les ensevelissez, elles ne reviennent pas de ce petit tambour jaune. Maurice déroulait toujours le même discours à ces foutus indécis qui prenaient la poste pour une consigne. « Et si vous preniez ça ?» Le garçon tendait un billet de 20 euros. « Je vais me fâcher, mon gars, et appeler la police. Monsieur, j'ai 20 ans, j'aime une jeune fille. Il y a dans cette boîte une lettre d'insulte qui rompt en quelques lignes 2 années d'herculéens efforts. Cette lettre est un sabordage. Vous seul pouvez me renflouer. » Maurice regarda le jeune type d'un drôle d'œil. Il aima soudain cet enfant qui tenait une rupture pour une question de vie ou de mort et s'exprimait avec une vigueur d'un autre âge, là où les beaufs habituels, petits blancs accordis, bourgeois déclassés, métis arrogants, auraient ergoté en brandissant leur droit à disposer de ce qui leur appartenait. « Vous ne savez même pas si elle vous aime, » dit Maurice. « De quoi vous mêlez-vous ? De ce qui appartient à mon sac postal que je m'en vais distribuer, » dit Maurice en sortant la clé de la boîte. « Attendez, monsieur, je vous en prie, je l'aime. » Et si vous saviez, enfin, dans la lettre, je lui dis des insanités. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je croyais qu'elle me trompait. C'était faux, bien sûr, mais il fallait vérifier ou vous retenir. Vous n'avez jamais agi impulsivement ? Maurice se souvint de cette soirée de 1969 sur les pentes de Mafate où, le cerveau labouré par le rhum et le sang échauffé par la viande boucanée, il avait flanqué à Marie-Thérèse une telle raclée que tous les chiens de l'îlet s'étaient mis à hurler en même temps et que les oiseaux avaient décollé de l'hibiscus tout proche comme si l'arbre s'était ébroué de ses parasites. « Non, mon petit, » dit Maurice, « vous mentez. »« Oui, rendez-moi la lettre. »« C'est interdit par le code pénal. Si ma hiérarchie l'apprend, je risque plus que ma place, des poursuites. » Soustraire une lettre à la boîte est pire qu'une entorse à la loi pour nous. C'est un déshonneur. Vous mettez moins de scrupules à voter une grève. Je vous dis que je risque ma place. Et moi, de passer à côté de ma vie. Puis-je vous confier quelque chose ? Vous avez bien agi. Qu'en savez-vous ? Je crois que le premier mouvement est le bon. L'avenir vous confirmera que votre geste cachait une intuition. Vous m'en fumez, monsieur. Venez, je vous offre un café. Je veux vous expliquer. Maurice coula le courrier dans son sac de toile de jute et referma le clapet de fonte de la boîte avec sa clé carrée. Le garçon n'esquissa pas un geste.
Chez Hamsoun, Mariek servait un café crème à 1,50€ dans de grandes tasses rouges décorées de rennes lapons. La jeune fille détailla le couple qui prit place à l'une des tables de balsa Ikea. Que faisait ce postier aux cheveux poivre et neige, ce pygmée qui la saluait tous les matins, flanqué d'un vampire hamlétien? Le conformisme de la jeune Scandinave fut ébranlé par la dégaine du garçon, mais la doucereuse libéralité social-démocrate, inoculée par 2 décennies de fréquentation des établissements scolaires protestants, étouffa en elle tout embryon de jugement. Dans la vie, il fallait être tolérant et faire son métier. Elle apporta les tasses. Il y a quelques années, dit Maurice, il y eut un drame à La Réunion. Je l'ai appris de la bouche même du commandant Redaï, chef d'un sous-marin nucléaire, sous les ordres duquel mon frère servait à la base navale. Le Ruby devait appareiller avant Noël de Saint-Denis, pour une mission de 3 mois dans l'océan Indien. La veille du départ, le sac postal destiné à l'équipage fut acheminé sous scellé dans le sous-marin. C'est au commandant des bâtiments que revient le soin de régler la question du courrier. L'état-major leur ordonne de lire les lettres des matelots avant de procéder à la distribution. Ils jugent ainsi du degré de gravité des nouvelles et décident de maintenir ou de reporter l'embarquement des hommes. Par exemple, si un message annonce l'agonie d'un proche, le destinataire est prié de débarquer. Vous imaginez Redaï, à la veille de plonger à bord de sa pile atomique, occupé à éplucher des monceaux de banalités ? Cela me rendrait fou, moi, d'avoir fait l'école navale, pour me fader des nouvelles de la guérison de la varicelle, des mioches ou de l'état du col du fémur de la tante Janine. Ce jour-là, le commandant décacheta une lettre de 12 pages signée Clotilde. D'une vilaine écriture ronde, elle annonçait qu'elle quittait son mari. Il avait tout, la litanie des griefs, l'étalage des rancœurs, le mauvais procès. Clotilde ne supportait plus cette vie dont les quais militaires et les aéroports constituaient les bornes. Elle avait rencontré un homme, un vrai. Elle s'installait avec lui, un boucher de Roscoff. Le commandant était piégé. La lettre s'adressait à son chef mécano, un type irremplaçable. S'il transmettait le courrier, le malheureux ne s'en remettait pas. Vous vous imaginez, macéré dans un chagrin d'amour, à 300 mètres sous l'eau, dans une passoire d'acier, peuplée de mecs en marinière qui courent dans les couloirs avec les clés à molette et les airs préoccupés. Mais pourquoi me racontez-vous cela ? Parce que ça vous concerne, dit Maurice. Le postier fit un geste à Mariek et lui commanda un strudel. Le commandant a serré la lettre dans son coffre-fort à côté de son 9 mm et n'a rien dit à son mécanicien. La mission s'est déroulée sans encombre. Le sous-marin a patrouillé jusqu'aux îles Lakdiv. Au retour à Saint-Denis, 3 mois plus tard, nouveau sac postal. Nouvelle corvée pour le commandant et nouvelle lettre de Clotilde. Finalement, le boucher était du genre décevant. Elle revenait. Elle s'en voulait drôlement. Elle n'avait pas de mots assez tendres pour son mari, ni assez durs pour elle. Le commandant déchira les 2 lettres. L'affaire était classée. Il se félicitait. Dans la vie, mieux vaut ne rien savoir. Pour une fois, la politique de l'autruche payait. « Vous êtes en train de m'avouer qu'il a bien fait de ne pas distribuer les lettres ? Alors rendez-moi la mienne. »« Attendez, mon petit. » Le mécanicien est reparti chez lui, en Bretagne. Il a retrouvé sa femme et ils ont repris le cours des choses. La mer, les pluies de l'automne, les tempêtes de l'hiver, le soleil du printemps sur les rhododendrons de la petite maison. Et, comme horizon de cette existence-là, le quai d'embarquement. Sauf que, 3 années plus tard, on a appris que le type s'était fait sauter le caisson avec son arme de service après avoir liquidé sa femme de 3 balles dans le corps. Et alors, le rapport ? Mon petit ami, je dis cela pour vous convaincre. Le mécano du sous-marin aurait mieux fait de lire les lettres, d'en tirer des conclusions, de ne jamais retourner chez lui. Il aurait pris la mesure du vrai visage de sa femme, les volte-face, son inconstance, sa médiocrité, cette vénalité au fond qui la poussait dans les bras d'un boucher enrichi dans le trafic de protéines. Le voile se serait déchiré. Toute lettre attachée à son destin déclenche une chaîne de catastrophes. Si je vous remets la lettre, je m'y mise dans l'ordre des... Oui, bon, ça va, j'ai compris. Le petit facteur baissa la voix, plissa les yeux. À Saint-Denis, tout le monde connaît l'histoire de Banda, un clipper qui appareilla de Durban en Afrique du Sud au début du XVIIIe siècle pour regagner l'Europe. À bord, serré entre les pierres précieuses à destination des diamantaires d'Anvers et les empilements de défense d'ivoire, il y avait les lettres que les officiers du comptoir hollandais adressaient à leurs proches de Zélande, de Frise ou de Rotterdam. Le navire s'échoua peu après son départ sur les bancs de la Juive, dans le canal du Mozambique. Il y avait dans les flancs du voilier la lettre d'un jeune capitaine qui priait ardemment la fille d'un tailleur d'Amsterdam de l'attendre. Il lui jurait des choses superbes, déroulait ses envolées, célébrait le bonheur conjugal contre la stérilité de la vie amoureuse. Bref, Une bonne petite lettre d'amour ridicule, avec des mensonges, ses suppliques et ses serments assortis de l'infâme brouée de l'espérance. La lettre n'arriva jamais. Mais comment savez-vous ce qu'il y avait dedans? Parce que le jeune capitaine qui n'avait rien su du naufrage a écrit par la suite un récit, un petit libelle, dans le genre précieux. On nous faisait lire cela à l'école, à ma fat. Les infortunes de la correspondance. Par le capitaine Arminius van Kipp. Dans la lettre disparue, il demandait le crédit d'un an à la fille, lui jurait de l'épouser sitôt débarquée. La petite Batave, à Amsterdam, ne pouvait se douter que le programme de son avenir radieux flottait dans les eaux entre Madagascar et le Mozambique. Quand le marin transi arriva un an après, sûr de lui, à Amsterdam, ce fut pour découvrir les jumeaux que la dame avait donnés entre-temps à un cultivateur de tulipes de la région de Delft. Mais la mienne n'est pas hollandaise, elle s'appelle Aïcha. Soyez sérieux, vous avez compris. Il ne faut jamais briser la course d'une lettre. Une missive est un piège d'engrenage. Ni le hasard, ni un homme ne doit se permettre d'enrayer le mouvement. Laissez-moi remettre la vôtre. Je m'économise la responsabilité d'un délit. À vous, j'évite une malédiction. Mariek apporta l'addition. Ils réglèrent en silence, sortirent du café, se serrèrent la main sur le trottoir et se quittèrent. Mariek suivit des yeux longtemps ce jeune garçon à l'imperméable noir qui finalement n'était pas fâché de l'intervention d'un facteur étranger dans le débat intérieur qu'il menait à propos de la petite Aïcha, dont il se rendit compte au fond qu'il se foutait pas mal.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i. Des courbes manuscrites comme dans les API. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie. Et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. N'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Elle écrit que dimanche, elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches. Et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact. 30 mètres.
Drôle de héros que cet amant escaladeur et ce facteur philosophe. Si les nouvelles vous ont fait sourire, 17 autres portraits vous attendent pour vous conduire dans d'autres situations abracadabrantes. Les lectures étaient assurées par Monique et Annie, la partie technique par Claude Michel, les passages musicaux, Vertige de l'amour par Alain Bachoun et la lettre par Renan Luce. Amis auditeurs, au revoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez. Samedi 8 mars 2025, de 20h à 22h, Michel vous propose une émission spéciale Journée internationale des femmes. Découvrez des femmes qui ont été oubliées
alors que leurs inventions et leurs luttes ont été importantes pour la vie des femmes d'aujourd'hui, le tout enveloppé de chansons féminines militantes. Rendez-vous samedi 8 mars à 20h sur Radio G.
Sonia, j'ai pas assez d'une main.
Pour ?
Et pour compter jusqu'à 6.
C'est la 6e déjà ?
Et oui, et les inscriptions sont ouvertes. Alors chanteurs et chanteuses, c'est moment de tenter votre chance pour participer à Radiovision.
Pour que votre titre original passe en radio, rendez-vous sur radiovision.fr. Vous avez jusqu'au 18 avril. C'est gratuit et ouvert à toutes et tous.
Infos et inscriptions sur radiovision.fr.
TV, but it's intended.